BW. Droits et libertés.
Initiative lancée par un journal dans un camp de réfugiés au Kenya ou comment diffuser la sensibilisation aux gestes qui sauvent par haut-parleur en temps de coronavirus. Et puis en deuxième partie d'émission, nous allons parler d'une forme de racisme un peu méconnue, le racisme anti-noir au Maroc. Sandrine Blanchard au micro, bonjour à tous. Imaginez une grosse voiture surmontée d'un haut-parleur qui sillonne les allées du camp de réfugiés de Kakuma dans le nord du Kenya. Elle répand des messages de sensibilisation au danger du coronavirus en langue somalie. Les gens s'arrêtent pour écouter, les enfants courent après la voiture. C'est Canéré qui a lancé cette action, un magazine d'information indépendant produit par des réfugiés eux-mêmes. Tolosa Korecha en est le rédacteur en chef.
Nous ne faisons pas de radio, le matériel serait trop cher. Ces 10 dernières années, nous sommes présents sur plusieurs plateformes Internet pour atteindre nos auditeurs et nos lecteurs dans le camp.
Et depuis le début de la pandémie de coronavirus, c'est le haut-parleur le principal moyen de communiquer. Le camp de Kakuma abrite environ 200 000 réfugiés, essentiellement originaires du Soudan et de Somalie. Beaucoup ont été totalement désorientés par la
Covid-19. Les réfugiés se font du souci. Il n'y a pas assez de dispensaires ici. Et puis, ils craignent que la situation ne soit hors de contrôle.
Le premier objectif de Canéré, c'est d'informer les gens sur les mesures d'hygiène et de précaution. Pour l'instant, aucun cas de Covid-19 n'a été recensé officiellement dans le camp.
Beaucoup de gens ont déjà changé de comportement. Ils portent des masques, se lavent régulièrement les mains. Il faut continuer comme ça et respecter les instructions.
Canéré est animé par une douzaine de journalistes, parmi lesquels Lissala Alphonse du Congo.
Ce boulot m'a toujours plu, même si c'est surtout du travail bénévole. Ça me permet de faire ce qui me plaît le plus, faire des recherches pour informer les autres.
Depuis peu, Lissala touche même un petit pécule en contrepartie de son travail de journaliste. La GIZ ou GIZ, c'est-à-dire la coopération allemande, soutient Canéré pendant la pandémie, ce qui motive un peu plus les employés de Canéré, même s'ils auraient travaillé aussi sans cela. Pourquoi ? La réponse de Tolosa Korecha.
Nous avons le devoir moral d'informer les gens, de les sensibiliser.
Les manifestations qui ont suivi un petit peu partout dans le monde la mort de George Floyd ont relancé le débat public sur le racisme. Et le racisme sous toutes ses formes. Évidemment, le continent africain n'est pas épargné par ce phénomène, hélas, quasi universel. Aujourd'hui, nous allons donc faire un tour du côté du Maroc, où quand quelqu'un parle de racisme, souvent, les autres froncent les sourcils. Parce que les Marocains qui vivent en Europe, par exemple, sont souvent victimes de racisme. Et donc, la plupart des Marocains pensent que le racisme, c'est quelque chose qu'ils peuvent subir à l'étranger. Mais au Maroc même, ce sont les Noirs qui sont souvent stigmatisés. Et ça n'est pas un reliquat de l'ère coloniale française, mais bien des conquêtes arabes. Or, dans le pays, la population marocaine noire est estimée à 10% environ de la population totale. Mais les personnes noires ont l'impression que l'hostilité à leur encontre va grandissant.
Oh,
Gnawa et Haratin, deux groupes qui composent les populations noires du Maroc. Traditionnellement, ces deux peuples vivent plutôt dans le sud du pays. La musique Gnawa, on l'entend encore aujourd'hui dans presque tous les mariages marocains, et pas seulement marocains, puisqu'elle met les invités dans une sorte de transe festive, ce qui lui a valu d'être rendu célèbre dans le monde entier. Mais pour Mbarek Bouchichi, hormis dans le monde de la musique, eh bien les Noirs sont quasi invisibles au Maroc. Lui-même est un artiste noir originaire de l'oasis d'Aka, c'est tout près de la frontière avec l'Algérie. Il a donc grandi au Maroc, comme n'importe quel Marocain, mais souvent il a l'impression d'être considéré par ses compatriotes comme un étranger.
Si on demande à quelqu'un de nous décrire le Marocain, il ne va jamais le décrire en tant que noir. Je vais qualifier de schizophrénique en quelque sorte, parce qu'on n'y reconnaît pas notre africanité, on ne l'assume pas.
Le racisme, comme l'esclavage pratiqué dans l'histoire du pays, sont des sujets tabous au Maroc. Pourtant, Mbarek Bouchichi parle de ségrégation. Par exemple, il existe des cimetières séparés pour les Noirs dans le sud.
J'arrive pas à y croire, parce que récemment, je mène des recherches sur des villages dans le nord du Maroc, qui est un nord pour nous qui est blond, mais qui s'avère qu'il existe des communautés, des villages dans la région de Chefchaouen, c'est des villages de Noirs. Et ces Noirs, ils sont tellement invisibilisés à travers ce que j'ai lu, les bribes des choses que j'ai trouvées, et sont même pas inscrits sur les listes électorales. Et quand j'ai fait des recherches sur le nom de leur village, par exemple, sur les cartes, je ne les trouve pas.
Dans le discours public, en politique, aux postes à responsabilité, les Noirs sont quasi invisibles donc. C'est ce que confirme aussi le sociologue Mehdi Alioua de l'alliance GADEM contre le racisme.
Haratin, c'est-à-dire, c'est une déformation arabe du mot hardani, hardan, qui voudrait dire noir tout simplement en tamazirt, en langue berbère, mais ça a été déformé en pensant qu'il s'agirait des esclaves, des anciens esclaves déportés et libérés. Hurtani, qui évidemment n'existe nulle part comme mot, c'est une invention, c'est juste, comme je l'ai dit, une déformation du mot amazir hardani, hardani, l'idée est restée que ces populations du sud marocain seraient des anciens esclaves déportés des rives de l'Afrique subsaharienne, et que donc, comme ils ont été esclaves une fois, on peut les rendre esclaves une deuxième fois.
Mehdi Alioua évoque l'époque à laquelle les Arabes ont conquis le nord de l'Afrique. Le sultan Moulay Ismail du XVIIe siècle, par exemple, a marqué l'histoire du Maroc. Il a monté une armée de Noirs, il a déporté des milliers d'esclaves en provenance d'Afrique de l'Ouest et du Maroc pour asseoir son pouvoir. Et cette époque laisse des traces dans les esprits encore aujourd'hui. C'est ce que confirme l'historien Chouki El Hamel de l'Université de l'Arizona State.
Ce sultan a été le premier souverain à définir une politique nationale axée sur la modernisation et la politique d'une représentation identitaire arabe. Le système marocain de définition raciale était clairement raciste et constituait en fait une curieuse inversion du modèle raciste occidental. Alors que dans le modèle occidental, une goutte de sang noir identifie une personne comme étant noire, dans le modèle marocain, une goutte de sang blanc identifie une personne comme étant arabe, c'est-à-dire privilégié.
Ceux qui avaient la peau claire avaient des droits, notamment celui de diriger, de commander les autres, ce que les Noirs n'avaient pas. Et ces rapports de classe, ces différences sociales du fait de la couleur de peau, restent très ancrés dans la société marocaine du XXIe siècle. Les jardiniers sont noirs en général, les personnes affectées au nettoyage aussi, tandis que l'élite est plutôt « blanche », entre guillemets, comme le dit le sociologue Mehdi Alioua. Les mariages mixtes créent aussi souvent des tensions entre les familles des mariés. Certains vont même jusqu'à condamner les unions quand l'un des deux amoureux est noir de peau. Il y a aussi des parents arabes qui mettent en garde leurs enfants contre la violence supposée des enfants noirs. Le maintien des Noirs à un statut inférieur au sein de la société se reflète d'ailleurs dans la langue marocaine. Le dialecte marocain ne dispose d'aucun terme vraiment correct pour parler des personnes noires. Beaucoup de ces termes sont des insultes, par exemple l'abid, esclave, que certains crient encore aux migrants d'Afrique subsaharienne arrivés au Maroc, ou alors quand on les appelle tout bonnement les Africains, comme si les Marocains n'étaient pas des Africains aussi. C'est la fin de ce magazine, merci de votre écoute et merci à Antje Dickhans et Dunia Sadaki pour les sons. Si vous voulez podcaster Droits et Libertés, allez voir sur notre site internet www.com/français à la rubrique Nos Podcasts. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.